Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Très heureuse de vous retrouver tous pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions. Et le PSG à Londres face à Arsenal. Ce soir se dispute la première demi-finale de cette Ligue des Champions. Match aller entre ces deux équipes entraînées par deux Espagnols au principe de jeu assez similaire. Y a-t-il un favori ? Les équipes anglaises semblent réussir aux Parisiens, mais les Gunners ont écarté le Real avec tant de facilité et n'ont enregistré qu'une seule défaite dans la compétition. Alors on s'interroge, enjeu, contexte, tout sur cette rencontre, avec l'aide notamment de notre envoyé spécial à Londres, Cédric De Oliveira, qui est donc sur place à l'Emirates. Demain soir, FC Barcelone-Inter Milan en Catalogne. Une rencontre qui survient à un mauvais moment pour les Nerazzurri, délogés de la tête de la Serie A. Ils vont défier des Blaugrana en pleine confiance. Ils ont la meilleure défense de la compétition, ces Italiens, mais est-ce suffisant pour les hommes de Simone Inzaghi face à Lewandowski, Yamal, Rafinha? Des questions que nous nous poserons aussi aujourd'hui avec l'aide notamment alors, d'un Parisien dans la place,
oui.
Ancien capitaine de cette équipe du PSG. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Ça va toujours bien?
Bah ça va, en fait, j'ai pas
de feeling.
J'ai pas de feeling aujourd'hui.
Ah oui,
mais je suis très concentré sur le match retour puisque je sais que ce sera à Paris et que du coup je me dis que ça va se jouer là-bas, mais n'empêche qu'aujourd'hui j'arrive pas à savoir si... ils vont être bien ou pas bien.
Est-ce que vous sentez quelque chose, Saïd ? Bonjour, Saïd
Hamda. Bonjour, Annie. Bah, moi, feeling plutôt positif. En tout cas, feeling sans stress, je dirais. D'habitude, je panique toujours dans la journée, j'y pense. Et là, aujourd'hui, plutôt serein.
C'est Eric qui déteint sur vous, alors.
Je crois que je le vois beaucoup trop ces derniers temps, c'est pour ça.
Bonjour Bruno, Constant.
Bonjour,
je remarque
Annie,
que vous avez tous les trois des maillots kaki là, c'est neutre,
c'est
aujourd'hui.
C'est le soleil. Comme on ne voit pas souvent le soleil,
ouais,
on s'est dit il y a du soleil, on va
mettre
plus clair.
C'est parti, l'été est arrivé avant le printemps, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est en plein milieu du printemps. Vous vous sentez quoi?
Ben moi ça va, moi je suis serein, je suis supporter d'aucun des deux clubs, donc tout va bien. Mais Eric l'a pas dit, mais à chaque fois que le PSG s'est qualifié, il était quand même assis à côté de moi dans le studio. Donc, je sais pas si je suis le porte-bonheur pour l'instant, mais on verra ce soir.
On verra ça. Émission préparée avec l'aide de Pierre Guérin, David Finzel et Laurent Salerno qui est à la réalisation. Avant de lancer l'émission, un salut très spécial à une auditrice du Bénin, cuisinière dans un restaurant de Cotonou et qui s'appelle Annie. Et que j'embrasse à travers les ondes. Coucou Nini, puisqu'on la surnomme ainsi. Et au plaisir de vous rencontrer un jour au Bénin et de déjeuner dans votre restaurant. Radio Foot, c'est parti. The Gunners of London, les canonniers de Londres sur le pied de guerre ce soir. Arsenal jouera dans son vaste stade de l'Emirates, une place en finale. Les Londoniens en rêvent autant que les Parisiens, car comme leurs adversaires du soir, ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Arsenal, club, vous l'avez entendu, donc du North of London. Comme le dit la chanson, dans une ville qui, si elle est la capitale du Royaume-Uni, est aussi la quatrième ville française au monde, avec une communauté hors hexagone évaluée à 300 000 personnes. Officiellement, il y a 134 000 inscrits au consulat de France à Londres. Alors un contexte qui, j'imagine, crée autour de cette rencontre une ambiance très particulière. En tout cas, on va tout de suite prendre le pouls de cette ambiance particulière. Bonjour Cédric De Oliveira, hello.
Salut Annie, salut tout le monde.
Alors Cédric, racontez-nous, vous qui sillonnez depuis quelques jours, depuis quelques heures plutôt, la capitale de l'Angleterre. Est-ce qu'on sent un petit peu dans l'air, ou au moins dans le nord de Londres, qu'il va y avoir un événement footballistique important ?
Bah là, ça peut pas être mieux, Annie, puisque là, je suis vraiment posé sur le rond-point en face de l'Emirates et je vois des maillots rouges et blancs partout. Voilà. Donc, effectivement, on est dans le nord de Londres et eh bien, on affiche ses couleurs ici, celles d'Arsenal. Pas très, très loin d'Highbury, l'ancien stade historique des Gunners. Mais eh bien, voilà, il y a cet Emirates qui a été inauguré en 2006. Et eh bien, effectivement, on est plutôt excité par ce match. Hier, Mikel Arteta, en conférence de presse, parlait de là des matchs les plus importants, en tout cas, de ces 20 dernières années, depuis 2006. C'est logique, c'est une demi-finale de Ligue des Champions et Arsenal n'en avait pas disputé depuis 2009. Donc voilà, une excitation en tout cas particulière pour les supporters et notamment ici dans le nord de Londres.
Oui, effectivement, une seule finale pour l'instant pour cette équipe. Mais il y a Mikel Arteta, justement, hein, parce que maintenant, ils sont passés de 38 000 à 60 000 places en changeant de stade. Eh bien, il en a appelé aux supporters pour chauffer l'ambiance en tribune.
8 p.m. tonight. 11 players, 60,000 people. Really super convinced that we are ready to beat them.
Up into V, let's go. Arsenal sail through to the semi-final in style.
We're here to create our own history.
Un appel sur les réseaux sociaux de ce club du nord de Londres. Alors, on se souvient qu'il avait lancé le même genre d'appel contre le Real Madrid et ça avait bien marché, Bruno. Cette marée rouge avait, on a l'impression, subjugué l'équipe.
Oui, parce que dans la culture anglaise, on va au stade, on rentre dans les tribunes 5 minutes avant le coup d'envoi, on reste assez longtemps au pub, entre amis. Et,
autour du stade.
Et on discute autour du stade. Mais effectivement, ça fait plusieurs fois que les entraîneurs de clubs anglais le font. Arteta l'a fait avant Madrid. Et l'atmosphère était assez exceptionnelle, puisque ceux qui témoignaient, qui étaient là-bas, disaient « Mais les gens ont commencé à chanter un quart d'heure avant le coup d'envoi, ce qu'on ne faisait pas d'habitude. » Et ça a amené une espèce d'atmosphère. Et voilà, c'est aussi une manière... Arteta, c'est celui qui a réveillé l'Emirates Stadium. Il a été conçu, construit par Arsène Wenger, un peu à son image. Et Arsène Wenger, c'était un beau stade, mais un peu... trop bien élevé quelque part.
Ouais.
Et Arteta, il a donné une âme à ce stade, et c'est pas facile de donner un âme à un nouveau stade, et notamment avec l'hymne qui, je trouve, emporte tout, qui s'appelle The Angel, North London. Mm-hmm. Et l'amour pour ce club, pour ces gens qui habitent autour d'Arsenal.
Qui fait un peu écho à ce fameux You'll Never Walk Alone.
Ça amène une certaine magie, ça amène les cœurs dans ce mm-hmm. stade-là, une certaine émotion. Et ça marche parfaitement. Et franchement, ce stade est de plus en plus bruyant.
Oui, parce qu'avant, il avait le surnom. Alors, apparemment, ça venait de Highbury, mais c'était The Library, hein, la bibliothèque, c'est-à-dire... Chut.
Mais c'était ça.
Évidemment que ce stade, j'imagine, connaît le problème qu'ils ont en Espagne, c'est-à-dire on y va en tant que touriste aussi, de passage, pour aller. Et le Parc des Princes vit un peu ça, hein,
ouais.
Saïd.
Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est aussi une hausse des prix qui permet aussi à qu'une certaine catégorie de la population d'aller au parc ou dans n'importe quel stade, notamment en Angleterre, vu que les prix sont très élevés. Aujourd'hui, ça limite quand même beaucoup de gens qui viennent maintenant un peu comme à l'opéra ou au théâtre, venir voir un spectacle et plus vraiment supporter avec l'âme d'un supporter. Donc c'est un petit peu dommage, c'est une problématique qui touche énormément de clubs.
Et puis j'ai lu aujourd'hui, notamment chez nos confrères de l'équipe, que c'est le Covid aussi bizarrement qui avait contribué à ce renouvellement, disons, des spectateurs dans les tribunes, parce que les personnes les plus âgées, après le Covid, avaient décidé de ne plus venir. Et du coup, ça, les supporters
les abonnés ont gardé les abonnements, ils se les passent entre eux, mais c'est vrai qu'il y a, comme disait Saïd, il y a beaucoup de touristes et aujourd'hui, il y a un gros débat en Angleterre sur l'augmentation quasiment dans tous les clubs du prix des abonnements.
Et ça va le faire encore.
Et Londres, c'est l'abonnement le plus cher d'Angleterre parce que c'est Londres, parce que c'est un quartier cossu de Londres et que voilà, c'est une population assez aisée.
En tout cas, Arsenal, une équipe, maintenant parlons plus sportif, qui n'a perdu qu'un seul match en Ligue des Champions, c'était à Milan contre l'Inter. Elle a enregistré aussi 3 défaites en 34 journées de Première Ligue. Elle est donc confortablement accrochée derrière Liverpool à la place de Dauphin. Ils ont eu un coup de mou, c'était en février quand ils perdent contre West Ham à domicile. C'était un moment où ils avaient beaucoup de blessés, on s'en souvient. Là, est-ce que leurs supporters sont confiants? On va voir qu'ils ont un vrai regard et une vraie appréciation sur le Paris Saint-Germain aussi.
We've got a bit more experience in the Champions League.
On a plus d'expérience en Ligue des Champions, donc je dirais qu'on a peut-être 55 à 60% de chances de gagner. Ça fait quelques années qu'à Paris, ils en rêvent. Ils ont parfois été tout proches, mais je pense que sans les stars, Mbappé, Neymar et Messi, ils sont meilleurs maintenant. Ça semble fou, mais c'est la vérité.
It's crazy, but yeah, I think that's true.
C'est une très belle équipe. Ils jouent beaucoup mieux que la dernière fois qu'on les avait affrontés. Et même si le stade risque d'être acquis à la cause des Gunners, leurs joueurs n'auront pas peur. Et ils ont un super gardien qui est Donnarumma. C'est la seule chose qui me fait peur. Mais je dirais qu'on est confiant.
Cédric de Oliveira, peut-on dire, ces supporters que vous avez rencontrés dans les rues de Londres hier, est-ce qu'il y a un petit doute dans la tête des supporters par rapport au Paris Saint-Germain ?
C'est-à-dire que c'est un doute, mais en tout cas,
on se méfie.
On se méfie de cette équipe. Et voilà, de sa capacité, notamment à aller vers l'avant, la progression.
Cédric, on va vous rappeler parce que là, la communication est très compliquée. Bruno, dans la presse anglaise, que dit-on sur ce Paris Saint-Germain ? C'est-à-dire, par rapport à Arsenal. Arsenal qui nous a montré et déployé toute sa science face au Real Madrid.
Non, mais la presse anglaise, depuis la double confrontation face à Liverpool, ils ont dit qu'ils se sont rendus compte que le PSG ne faisait plus rire du tout. Il n'y a plus de stars, c'est vrai, mais ils sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus collectifs, tout le monde court, il y a un vrai patron, c'est Luis Enrique, et ils ont été bluffés par la performance collective face à Liverpool. Liverpool, c'était le leader archi-dominant de la Première Ligue, et sur le match aller, même si le PSG perd, ils les ont balayés, le PSG. Et là, tout le monde s'est dit, attention, ce PSG est en train de devenir peut-être un des favoris. Et ça s'est poursuivi avec la double confrontation face à Aston Villa, même si au match retour, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites faiblesses. Mm-hmm. Après, Arsenal, c'est un tout jeune au niveau européen, c'est la deuxième saison en Ligue des Champions après 6 ans d'absence. Certes, ils ont éliminé le Real Madrid et je pense que c'est ce qui leur donne la confiance. Ils ont éliminé le tenant du titre, le Grand Real, recordman du nombre de victoires dans la compétition. Et quelque part, ça les a fait grandir. Mais aujourd'hui, le PSG reste favori.
Oui, surtout qu'ils les ont écartés avec la manière. On va écouter Mikel Arteta qui appelle justement son équipe à continuer. Et c'est vraiment, on a l'impression de le sentir, une équipe insatiable.
C'est vrai qu'on ressent beaucoup d'énergie autour de nous, beaucoup d'enthousiasme, quelque chose d'unique que seuls les grands matchs peuvent provoquer. On a hâte de jouer cette rencontre, d'autant plus au vu des circonstances, toutes les blessures, les défis auxquels nous avons été confrontés cette saison. Et voir l'équipe parmi les quatre meilleures d'Europe, ça montre à quel point on a des ressources, mais aussi notre mentalité. On écrit l'histoire depuis quelque temps, une très belle histoire, mais on en veut beaucoup plus.
We are making history. It's a beautiful story right now, but we want much more.
Quand on a une équipe qui a fait une telle démonstration face au Real Madrid, on emmagasine aussi beaucoup de confiance en espérant, parce qu'eux, ils sont dans la même lutte que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire décrocher une finale et un premier titre, Eric.
Ouais. Non, moi, je pense que c'est vrai, comme le disait Bruno, il y a cette performance contre le Real leur a donné certainement une dynamique encore plus positive.
Ce 3-0 à domicile.
Ouais, le 3-0 à domicile, et puis ils sont allés gagner là-bas.
En plus.
Donc, non, il y a eu une vraie maîtrise. Alors, je vais faire abstraction de la performance du Real, mais dans ce qu'on a vu dans la double confrontation, c'est un Arsenal très, très solide défensivement. Alors, efficace aussi offensivement, mais très solide défensivement. Moi, c'est ce que j'ai retenu, ce qui m'a impressionné le plus par rapport à ce que pouvait avoir comme arme le Real Madrid. En dehors de la performance, parce que même s'ils n'étaient pas à la hauteur de la confrontation, c'est aussi parce que Arsenal a été très très fort sur ces deux matchs. Et c'est là où j'ai été impressionné par le travail collectif et la solidité. Et après, maintenant, ça n'enlève pas que je reste quand même confiant sur les possibilités de Paris. Mais Arsenal a été vraiment impressionnant contre le Real.
Arsenal, il leur manquait un match référence au niveau européen depuis très longtemps. Très longtemps. L'année dernière, ils sont éliminés par le Bayern. On avait senti un peu de naïveté, un peu trop de jeunesse. Et on s'était dit, voilà, c'est encore l'Arsenal qu'on connaît, qui est un peu trop juste. C'était le cas lors des 7-8 dernières années avec Wenger. Et il faut remonter à, je crois, 2011, où ils battent le Barça de Messi à domicile, où il y avait vraiment un gros, gros match. Là, c'est le premier match référence où ils ont été plus forts. Et surtout, on faisait référence à... C'est la première demi-finale depuis 2009. 2009, ils sont éliminés par Manchester United, un autre club anglais. Et à la fin du match, Patrice Evra vient nous voir. Il nous dit, ce soir, on a vu des hommes contre des enfants. Et ça symbolisait complètement l'Arsenal d'Arsène Wenger. C'était une équipe naïve, trop jeune, belle à avoir joué, mais qui ne gagnait jamais. Et avec Arteta, c'est une équipe complètement différente. C'est presque devenu une équipe pragmatique, presque cynique. Et le cynisme, on en a besoin au niveau européen pour passer ces doubles confrontations. Ils ont ça en eux.
Saïd, on dit et on répète et on re-répète que le Paris Saint-Germain n'a plus de stars et qu'il y a un autre système développé désormais. Mais cette équipe, finalement, aussi d'Arsenal, Arteta, c'est aussi, finalement, il y a des similitudes avec le Paris Saint-Germain. C'est sa politique aussi. Parce que quand on cite les joueurs, Gabriel Martinelli, Hojbjerg, Saliba, Declan Rice, Saka, c'est pas non plus des grandes stars comme le sont d'autres joueurs. Et pourtant, ils sont tellement impressionnant sur le terrain.
En fait, Mikel Arteta a construit un projet. Je ne sais pas si vous avez pu avoir l'occasion de voir le documentaire qu'Amazon Prime avait réservé à Mikel Arteta. Si vous ne l'avez pas vu, c'était pendant le Covid. Et en fait, on voyait tout le travail de fond qu'il a amorcé et toutes les fois où il a failli se faire licencier de son poste des Gunners au début, parce qu'en fait, les résultats ne suivaient pas. Ouais. Mais les dirigeants d'Arsenal ont toujours donner la confiance au coach en disant c'est voilà, rare, c'est un projet plus ça, hein. Sur plusieurs années, c'est extrêmement rare dans le football moderne où on a besoin de résultats dans les 6, 8 ou 10 mois ou sinon on est limogé. Là, il a pris le temps de construire son groupe petit à petit, il a peaufiné aussi en recrutant des joueurs un petit peu en parcimonie à droite à gauche. Et aujourd'hui, ce qu'on voit actuellement, c'est le résultat de 3-4 ans de travail avec Mikel Arteta. Et surtout, il s'est assuré de créer un collectif. On a parlé là des joueurs, mais moi, si je devais définir un secteur de jeu où Arsenal excelle, je dirais que c'est le milieu de terrain. Parce que Declan Rice, qui a coûté plus de 100 millions, il fallait aller le chercher. Mais aujourd'hui, il rentabilise cet investissement-là. Un joueur dont on ne parle pas spécialement, mais Thomas Partey, qui vient de l'Atlético Madrid, qui est un joueur extrêmement fiable, qui est capable de jouer un peu à tous les postes, de donner une débauche d'énergie assez forte. On a aussi Martin Odegaard, qui n'a pas eu sa chance à Madrid et qui aujourd'hui est devenu capitaine à Arsenal. Donc il y a vraiment ce collectif-là. Mmh. Et on va avoir deux styles très similaires d'opposition face au Paris Saint-Germain. Ça va être intéressant à voir.
Cédric De Oliveira, c'est la sensation que donne cette équipe d'Arsenal, hein, une certaine confiance grâce à cette victoire contre le Real Madrid. Vous les voyez arriver en confiance ce soir dans ce stade ?
Bah, ce serait difficile en fait de dire le contraire. Voilà, il y a cette certitude, en tout cas ces certitudes en première ligue aussi, même s'il n'y a pas eu ce titre cherché. Il y a cette confiance dans Mikel Arteta. Il y a cette confiance dans les joueurs, cette capacité de marquer sur coup de pied arrêté. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais une domination en tout cas qui peut l'être face au Paris Saint-Germain. Et puis quand vous venez de sortir le Real Madrid de cette manière, forcément vous arrivez un petit peu galvanisé comme ça, même si encore une fois en tout cas Mikel Arteta en parlait, il se méfie de ce Paris Saint-Germain et de cette capacité qu'a le club, je ne sais pas si on m'entendait tout à l'heure, mais en tout cas avoir été capable de sortir deux clubs anglais comme ça, et notamment Liverpool en huitième de finale. On se méfie de ce PSG, mais en tout cas du côté d'Arsenal on a les armes, et d'autant que même si il y a un petit bémol, c'est la suspension de Thomas Partey. Il y a à peu près, on va dire, l'effectif quasiment au complet, et notamment le retour de Bukayo Saka au meilleur moment.
On a une énorme régularité de cette équipe dans son travail depuis plusieurs années et aussi dans la direction. Il faisait allusion, Cédric, et on peut en parler, à ses coups de pied arrêtés. C'est vrai qu'on
Je peux faire juste une petite précision avant par rapport à ce que disait Cédric. Ils sont loin d'être au complet, hein, Arsenal. Ouais. On en parle comme un favori. Il leur manque 4 titulaires. Il leur manque Gabriel en défense centrale. Mm-hmm. Calafiori, il est titulaire jusqu'à sa blessure. C'est le petit jeune Lewis Kelly qui...
Mais c'est depuis plusieurs matchs quand même.
Je veux dire, Calafiori est titulaire. Il est titulaire à l'aller. Il avait été fantastique à l'aller contre le PSG. Ouais. Enfin, l'aller en phase de poule. Thomas Partey au milieu de terrain, c'est une énorme perte. Ouais, ça a bouleversé le 11 et certains joueurs de poste. Et puis Kaya Vert, l'avant-centre. Si vous retirez aujourd'hui au PSG Vitinha, Dembélé, Pacho et latéral gauche Nuno Mendes, est-ce qu'on dirait que le PSG est favori ce soir ? Je pense pas. Là, aujourd'hui, Arsenal va jouer sans ces 4 titulaires-là.
Oui, mais malgré tout, quand ils ont joué contre le Real, il leur manquait aussi.
Oui, mais ça montre aussi qu'ils ont une capacité avec une force collective qui est remarquable. Mmh. Ils ont un banc de touche qui est famélique, hein, par le jeune Nwaneri. Il n'y a quasiment pas grand-chose sur le banc.
J'ai regardé tout à l'heure, je me demandais justement
s'il y avait... C'est presque un exploit de les voir à ce niveau-là en demi-finale avec ce qui leur est arrivé depuis le mois de janvier.
Les coups de pied arrêtés, Cédric voulait qu'on en parle. Et effectivement, bon, on a vu Declan Rice avec ses deux coups francs absolument spectaculaires au match aller. C'est l'arme de recours, je dirais, de cette équipe.
C'est une arme en plus. C'est une arme qui a beaucoup marché en première partie de saison, qui a remarché...
28 buts, je crois.
Ils sont à 28, toutes compétitions, suivant si on compte, phases arrêtées, les coups francs, etc.
Et qui avait marché contre le PSG lors du match.
Qui avait marqué, parce que les deux buts viennent de phases arrêtées. Ouais. Ils ont encore marqué sur un coup franc face à Crystal Palace mercredi dernier. C'est une arme en plus, mais c'est une arme qui est dépourvue de Gabriel, qui était souvent la cible en fait, à trouver dans la surface de réparation adverse. Et sans lui, il manque un peu plus de repères. C'est Kivior qui a marqué contre Crystal Palace. Mais effectivement, c'est une arme en plus. Et c'est une arme qui passe vers un coach français en plus, Nicolas Jover, qui est passé dans plusieurs clubs, Brentford, Manchester City. Et moi, je ne comprends pas que tous les clubs n'aient pas eu recours à un spécialiste des coups de pied arrêtés. C'est une arme, en fait, les coups de pied arrêtés.
Cédric, c'est aussi un sujet évoqué hier en conférence.
Oh, il y avait des questions là-dessus et d'ailleurs Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a pas beaucoup aimé. C'était une conférence de presse assez particulière. Il a parlé de climat un petit peu malsain autour du club. C'est quand on lui a demandé en fait s'il s'inquiétait des coups de pied arrêtés, s'il les avait travaillés, il a répondu à votre avis, est-ce que j'aurais ma licence d'entraîneur si je travaillais pas les coups de pied arrêtés. Donc voilà, on le sent un petit peu échaudé là-dessus. Il doit se sentir. Enfin, c'est vrai que. On l'a vu contre Aston Villa, son équipe, en tout cas le Paris Saint-Germain, est plutôt, on va dire, en difficulté quand il y a une intensité physique, notamment au milieu de terrain et sur ses coups de pied arrêtés. Et c'est vrai que face à Arsenal, ça pourrait être une des données du match. Et le PSG est clairement en dessous dans ce domaine, en tout cas sur ce qu'il a montré en Ligue des Champions.
Eric, les défenseurs sont prévenus.
Déjà, ils sont prévenus depuis un petit moment. J'espère que Donnarumma est un peu dans ce qu'il nous a proposé dernièrement, c'est-à-dire avec un peu plus d'intervention, un peu plus loin de son but. J'espère que Fabian Ruiz ne dormira pas comme il a dormi contre Nice. Et puis voilà, après, j'imagine que non, mais ça n'enlève pas à la grande qualité de cette équipe d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés. Alors, je fais abstraction des coups francs de Rice qui ont été extraordinaires et j'espère exceptionnel pour le. S'il est capable de le refaire,
exceptionnel dans le sens rare.
Dans le sens rare, parce qu'ils sont quand même. C'est quand même la perfection des coups de pied arrêtés.
Il n'avait plus marqué de coups francs depuis 2021.
Et même lui, je ne sais même pas s'il avait déjà marqué.
Non, jamais.
C'était un peu le Lilian Thuram de la Croatie pour non mais voilà. Donc non mais en dehors de ça, il y a quand même une réalité, c'est que ils sont très confiants de ce côté-là. Paris l'est beaucoup moins. Donc ça quand même ça donne quand même un certain avantage à Arsenal. Maintenant, il reste après le reste à jouer. C'est l'état d'esprit qui fera la différence.
Une star couvre du regard, évidemment, cette rencontre. Lui qui a une statue à l'Emirates, j'imagine que Cédric l'a vu, cette statue aux abords du stade. Et c'est évidemment Thierry Henry qui a beaucoup fait pour l'amour des Frenchies envers les Gunners. Et il a eu un petit mot sur la rencontre.
C'est un grand moment, je suis vraiment très content. Parce que c'est ce qu'on espérait, voir un jour Arsenal capable de battre le champion d'Europe en titre à domicile et à l'extérieur. Voilà, ça y est, on est en demi-finale. On a été sérieux jusque-là. Mais c'est le moment pour l'équipe de montrer là tout son potentiel. Mais attention, ce sera le PSG en face.
Et oui, Thierry Henry, on en aurait toujours besoin dans une grande équipe. Et Thierry Henry qui a écrit les belles heures d'Arsenal et qui a joué la seule finale que ce club a disputée en 2006 face au FC Barcelone. Cédric De Oliveira, je crois que vous êtes en bonne compagnie du côté de Londres aux abords du stade. Un fidèle non seulement des tribunes d'Arsenal, mais aussi un fidèle de notre session carton du Café des Sports le vendredi. Un certain Georges.
Je viens de le retrouver là sur le rond-point. On est vraiment en face de l'Emirates. Et donc, j'ai Georges avec moi. Je vous le passe.
Hello.
Bonjour Georges.
Bonjour Madame Annie, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous attendre au téléphone.
Monsieur Georges, nous on est tellement heureux quand on reçoit vos cartons que vous êtes en direct et que vous célébrez les victoires à l'Emirates d'Arsenal. Vous êtes Ghanéen, hein, une Black Star, très attentif à tout ce qui se passe dans le football. Dans quel état êtes-vous à quelques minutes du coup d'envoi?
Ah, vous savez, positif, état positif, parce que comme on a raté le championnat, donc c'est notre dernière chance pour pouvoir gagner quelque chose, parce qu'il y a une forte pression sur la tête. Hein. Et comme vous avez déjà suivi, vous savez qu'à l'époque, on pensait qu'on a déjà raté le championnat deux fois déjà, troisième fois. Donc cette fois-ci, on se dit, cette année, ce serait notre année, notre chance pour pouvoir gagner ça. Et le problème, c'est qu'avec PSG, on a déjà gagné PSG 2-0 mm-hmm. au cours des phases. Donc on se dit, c'est une nouvelle équipe. Mais ce qui est sûr, PSG, pendant quatre fois déjà, ils n'ont jamais gagné ici. Donc on se dit, on a une belle chance pour pouvoir gagner. Donc on est positif et puis on se dit solidaire parce que je sais que le match qu'on avait joué contre Crystal Palace, à cause de certaines erreurs, on a encaissé des buts bêtes. Mais cette fois-ci, ça c'est demi-finale. Donc on se dit, ouais, on est prêt. Et on doit tout faire pour pouvoir gagner ce soir. Et puis aussi, le mercredi et le mercredi prochain, être soudain pour pouvoir soit avoir un match nul ou bien, ce qui est sûr, ne pas perdre à Paris.
Oui. Georges, racontez-nous comment c'est être supporter d'Arsenal à Londres. Vous allez toujours avec des amis au stade. Comment ça se passe pour vous ?
Moi, je suis un abonné, au fait. Je suis un abonné. Mais par exemple, ce soir, par exemple, je suis un abonné et pour pouvoir être abonné, ça m'a pris au moins 16 ans. 16 ans.
Oh.
Ouais, 16 ans. Donc, il y a une liste d'attente. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Ça m'a pris 16 ans pour pouvoir être abonné. Et aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas sur le compte d'être abonné parce qu'il faut acheter le billet, c'est 80 livres 55. Pour ce match-là. Et pour Real Madrid aussi, c'était 80 livres. Donc, et ça ne fait pas partie de notre liste d'abonnement. C'est seulement, on a seulement le championnat et puis, comment on appelle, les coupes domestiques. Mm-hmm. Et puis, Champions League, group stages.
Ouais.
Et au fait, une petite question. Je suis né à Londres. Je suis né à Londres, uh-huh. mais de parents père ghanéen et puis maman béninoise. Ils se sont rencontrés ici, mais ils ne sont plus. Donc, ce qui fait que j'ai gardé un peu le français. Donc, ça, c'est mon truc, ça. Ouais, donc, pour être abonné, c'est une longue histoire.
Oui.
16 années. Et puis, il y a des gens même qui sont sur la liste d'attente.
Mm-hmm.
Des années. Donc, ça prend du temps. Et aussi, comme vous avez écouté, j'écoutais, quand je venais dans la voiture, j'écoutais votre émission. Parce que même quand je finis le boulot, je mets ça. Donc, je suis un auditeur fidèle. Royal, comme on le dit. Et il y avait, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, il disait, notre billet là, par exemple, pour moi, mon billet, je paie 1200.
Ah,
1200 livres.
Ouais, à l'année.
À l'année, mm-hmm. 1200 livres.
Ouais.
Sans compter, aujourd'hui, demi-finale là, ça ne fait pas partie. Quart de finale, ça ne fait pas
ouais.
partie. C'est seulement le championnat.
D'accord.
Donc c'est le billet le plus cher de Londres, ça.
Bon, mais ça doit valoir le coup. Merci beaucoup,
ouais,
Georges.
Merci, ouais, ça fait vraiment plaisir.
Thank
de
you very much.
Téléphoné. Salut à tout le monde au plateau. Et comment connaissez
Bon, ben, on pensera à vous en regardant le match. Alors, abordons quand même le Paris Saint-Germain. Ils ne sont pas que des figurants,
bah, oui,
n'est-ce pas,
même.
Eric ?
Ils allaient partir, hein, franchement.
Et justement, hein, et ben, les supporters, ils sont sur place. Alors, se casser la voix, on les entend toujours très fort hein, dans les stades, même à distance, même à travers la télévision, n'est-ce pas, Saïd ? Ils ne seront que 2500 ce soir sur 60 000. Hein, bon, on leur a un peu réduit la voilure. En tout cas...
Je peux faire une précision ?
Allez-y.
La raison, c'est parce que le PSG réduit la voilure pour tous les clubs qui viennent au Parc des Princes.
Ah ouais, c'est
que ils n'appliquent pas l'UFA des 5%. Ils sont à 4,1% au Parc des Princes. Et donc Arsenal a dit, bon bah cette fois on va faire comme
on fait pareil.
Voilà.
Et ben voilà.
Okay.
Voilà.
C'était important
parce
qu'on a laissé entendre qu'Arsenal sanctionnait le PSG, c'est
non,
pas vrai.
Raison.
On
okay.
leur rend la monnaie de leur pièce, okay. c'est très bien. En tout cas, cette équipe arrive peut-être avec une aura un peu moins brillante au-dessus de la tête. L'invincibilité, eh bien ils l'ont perdue, eux qui vont jouer contre un club qui a réussi l'invincibilité en 2003-2004, les fameux invincibles. Eux, ils ont été battus au cours du week-end à domicile par Nice. Et puis il y a eu quand même cette défaite à Birmingham qui faisait un peu moche dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. En tout cas, ils ont éliminé, on le disait tout à l'heure, Aston Villa et Liverpool en quart et en huitième. Luis Enrique a donc préféré parler des adversaires que de son équipe. Et c'était à votre micro, bien sûr, Cédric.
Arsenal est uno C'est l'une des meilleures équipes cette saison et le travail de son entraîneur est remarquable. On sait à quel point c'est difficile de jouer contre Arsenal dans ce stade, cette ambiance avec cette intensité physique. On peut sentir la cohésion entre les joueurs, la force de leur groupe qui ne dépend pas que d'une seule individualité, comme nous d'ailleurs. Le club est deuxième de Première Ligue, ce qui n'est pas rien, mais c'est dur de savoir si c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Une des meilleures peut-être, mais nous aussi.
Cédric, on parle d'une équipe peut-être un peu moins en confiance. Est-ce que le fait que l'entraîneur avait l'air un peu tendu en conférence de presse contribue à cette sensation ?
Non, je pense pas vraiment. C'est un peu du show Luis Enrique. Hein. Il aime bien faire ça en conférence de presse, un petit peu attirer, les désagréments des journalistes, s'il y en a, il est dans son rôle, il est dans son personnage aussi, Luis Enrique, mais j'ai quand même l'impression que c'est vrai que quand vous êtes joueur et que vous êtes à quelques jours d'une demi-finale de Ligue des Champions, que vous êtes déjà champion de France, bon, il y a un petit peu de relâchement, même inconscient, et que finalement, il y a eu cette défaite, mais que les Parisiens seront pleinement concentrés sur ce double affrontement et sur l'objectif, en tout cas, c'est le match, c'est le rendez-vous le plus important de la saison. Donc je vois les Parisiens quand même assez concernés, c'est un euphémisme, mais en tout cas, pas déstabilisés par cette mauvaise série, même si elle arrive un petit peu avant ce match face à Arsenal.
Vous êtes d'accord avec l'analyse de Cédric, Eric ?
Ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils ont complètement déconnecté pour se concentrer justement sur cet affrontement.
Parce que là, on leur avait pas supprimé le match.
Ouais, mais après, je pense toujours et je pense qu'ils ont besoin de jouer ce match. Donc physiquement, ils l'ont joué réellement. Sauf que inconsciemment, dans l'efficacité, on met peut-être pas tout ce qu'il faut pour être à 100% dans la finition des actions, et c'est ce qui s'est passé contre Nice, c'est-à-dire que et après derrière dans la concentration, là défensive, là pour moi c'est ça le plus gênant dans ce comportement, mais sinon en dehors de ça, ça m'inquiète pas plus. Je pense qu'ils vont être à la hauteur de l'événement. Maintenant, après, on verra, parce qu'il y a un vrai adversaire en face.
Saïd, on disait que Arsenal était sans doute renforcé par cette éclatante victoire, ce 3-0 contre le Real Madrid et cette maîtrise. Peut-être que dans la tête du Paris Saint-Germain, c'est aussi ces victoires contre les clubs anglais. On le disait, hein, Liverpool qui vient d'être sacré champion comme eux de leur championnat. Et puis évidemment, contre Aston Villa, même s'il y avait eu la défaite au match retour.
C'est totalement vers ça que j'allais aller. On parlait beaucoup de confiance du côté d'Arsenal. Est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier de l'excès de confiance d'avoir battu le Real Madrid sur un one-shot comme ça, alors qu'en parallèle...
Ils ont gagné aussi au Bernabeu.
Oui, mais je veux dire que c'était quand même vraiment l'exploit que personne n'attendait, alors que du côté de Paris, quand même, à Paris, on a quand même battu Liverpool et on a battu Aston Villa. Donc, il y a quand même cette historique en train de se créer contre les clubs anglais. Et surtout, pour moi, le moment charnière, ça a été ce match contre Liverpool, parce que de l'autre côté de la Manche, on ne regarde pas spécialement la Ligue 1 et ils ont été épatés, un petit peu impressionnés. Désiré Doué n'était pas très connu. C'est peut-être anecdotique, mais après le match face à Liverpool, Désiré Doué, il a pris 200 000 followers sur Instagram. Donc il y a une méconnaissance un petit peu des joueurs parisiens. Et je pense que Paris a un avantage un peu psychologique, parce que Paris, à chaque fois, s'en est sorti contre les clubs anglais. Et il ne faut pas oublier que Paris va aussi recevoir au match retour. Et comme c'est sur une double confrontation, Paris a largement son mot à dire.
Bruno, en même temps, on aligne un peu les exploits contre des clubs anglais qui, en même temps, n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
On leur donnera la Coupe d'Angleterre s'ils veulent, hein, s'ils éliminent Arsenal. Mais c'est pas le tout d'éliminer tous les clubs anglais. Il y aura une finale face à l'Inter ou Barça.
Les clubs anglais.
Mais c'est difficile de comparer les différents clubs anglais sur la scène européenne. Liverpool est une bien meilleure équipe qu'Arsenal, par exemple. Et pourtant, Arsenal est en demi-finale de Ligue des champion, Liverpool ne l'est pas.
Oui, c'était.
Mais moi, je trouve que aussi. Paris, on passe un peu vite sur ce qui s'est passé les derniers matchs. Il y a effectivement le match contre Nice, on va dire que c'est un relâchement. Il y a déjà eu contre Nantes aussi, on disait que c'était un relâchement. Contre Aston Villa, c'est pas un relâchement contre Aston Villa. Ils se sont fait rentrer dedans, ils n'ont pas été capables de tenir l'intensité. Sauf que s'ils sont capables d'être renversés en 45 minutes face à Aston Villa, dans Villa Park, ils en ont pris 3 et encore Donnarumma en sauve 3. C'est qu'ils sont, pour moi, sur une pente un peu plus descendante. Pour moi, ça va être un gros test, le match aller Arsenal. On va voir si on va retrouver le PSG de Liverpool et du match aller d'Aston Villa, ou si on va voir ce PSG qui est un peu plus incertain, qui est un peu plus dans le doute au niveau de l'intensité. On a du mal à retrouver le pressing sur 90 minutes.
On a du mal à retrouver Ousmane Dembélé
aussi. Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia est un peu dans le dur en ce moment. Le milieu de terrain Vitinha un peu dans le dur également. Voilà, pour moi, il y a quand même des questions. C'est un PSG tout jeune.
Après,
faut
moi,
le rappeler aussi.
Je vous trouve dur quand vous parlez de relâchement, parce que quand on analyse toutes les équipes qui sont encore en compétition, on a Arsenal qui a fait match nul, on a l'Inter qui enchaîne les défaites, on a le Barça aussi qui a un petit peu de mal. Moi, je ne pense pas que ce soit du relâchement, mais je pense que c'est plus de la gestion. Et tout à l'heure, Eric.
Mais c'est pas de la gestion contre Aston Villa.
Ils n'ont pas laissé contre Aston Villa. Mais c'est normal qu'il y ait des temps faibles. Non, mais c'est normal qu'il y ait. Oui, mais c'est sur une courte période, sur 20-30 minutes. Bon, il y a des temps faibles, ça arrive dans le football, mais ils sont quand même qualifiés, donc c'est pas dramatique. Mais sur les matchs qui ont suivi, donc Nantes, OGC Nice, etc., moi je pense que c'est de la gestion, et Eric tout à l'heure en parlait très bien, c'est que physiquement, on va pas mettre les mêmes efforts, peut-être par peur de se blesser, par peur de ne pas être prêt pour le plus grand rendez-vous de la saison du Paris Saint-Germain, et c'est le cas aussi avec l'Inter, et c'est le cas avec les autres clubs. Donc je pense que c'est juste qu'on est dans une phase de gestion, et on aura un Paris Saint-Germain différent ce soir.
Encore une question, quelle importance accorder à ce match de l'automne où le Paris Saint-Germain avait été battu 2-0 par les Gunners, qui avaient déjà été impressionnants eux aussi sur leur pelouse? Eh bien, hier, il a répondu à cette question au micro de Cédric, le milieu Vitinha. Pour lui, évidemment, le temps est différent.
C'est forcément un match différent. Bien sûr qu'on va essayer de faire un résultat différent, on va tout faire. On ne va pas changer beaucoup notre manière de jouer. On va être à 1000% pour jouer ce type de match. Peut-être que des choses qui sont passées dans le match contre Arsenal ici, ça ne va pas passer demain, on ne sait pas. Bien sûr qu'on va être plus préparé. On a beaucoup évolué. On va se présenter ici d'une manière différente parce qu'on n'est pas la même équipe qu'on était à octobre.
Cédric, c'est dans les têtes encore ce 2-0?
Non, pas du tout. C'est vrai que il s'est passé tellement de choses depuis ce match. C'était la deuxième journée de la phase de ligue. Mm-hmm. Bon, ça s'était pas bien passé, effectivement, une défaite 2-0. Paris avait pas du tout existé, avait manqué de caractère, avait manqué de d'à peu près tout. Je crois que il y a eu en tout cas depuis il y a eu toute cette phase, en tout cas ce retournement de situation, ce basculement, notamment le match face à Manchester City qui a tout changé, en tout cas dans la campagne de phase de ligue. Et puis depuis, on en parlait en tout cas en studio, l'élimination face à Liverpool, l'élimination face à West Ham, le titre de champion, cette bonne période, il y a beaucoup plus de certitude dans les têtes du Paris Saint-Germain. Et je crois que même du côté d'Arsenal, on sait qu'on ne va pas rencontrer la même équipe. Et en tout cas du côté du PSG, on a largement, en tout cas c'est ce qui se dégage, en tout cas il y a pas une ultra confiance, mais en tout cas il y a une forme, en tout cas de sérénité sur ce qu'on est capable de faire en Ligue des Champions.
Merci beaucoup Cédric de Oliveira, on vous laisse partir vers la tribune de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour la retransmission du match et pour la deuxième émission de Radio Foot. Messieurs, allez, on revient juste sur ce petit fait avant de passer au dernier sujet. Eric, vous vouliez réagir vous aussi sur...
Non, mais je voulais réagir parce qu'on peut même pas comparer ce match d'Arsenal sur le... C'était la première équipe, la grosse équipe qu'ils affrontaient sur leur liste de grosses équipes qui arrivaient derrière, là, sur les affrontements sur la première partie de Ligue des Champions. Donc, elle était un peu dans le... Sans savoir où elle allait, quel niveau elle avait réellement. Tu te présentais sans Dembélé, il y avait un peu de tension parce que cette décision de Dembélé faisait que les autres autour ont dû se dire qu'est-ce qu'il nous fait. Et puis donc il y avait plein de choses comme ça. Donc je pense que vraiment psychologiquement c'est différent, sans parler de l'évolution de l'équipe déjà. Mm-hmm.
Et je pense qu'il faut pas réécrire l'histoire. Rabé a totalement raison. Déjà le premier match c'était contre Gijón,
Getafe, non?
Non, c'était Rijon, j'ai eu un doute. Et surtout, en fait, il ne faut pas réécrire l'histoire, parce que même si Paris a perdu 2-0, Paris avait dominé dans le jeu. Donc déjà, même à l'époque où ce n'était pas encore le même Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui, Paris avait quand même eu la possession de balle très largement face à Arsenal. Ils les avaient mis en difficulté dans le jeu, mais Paris avait un énorme problème de finition, aussi, avec notamment Colomoni qui était encore là. Offensivement, on n'avait pas trouvé la solution. Et donc, Paris n'arrivait pas à trouver la marque et ça a commencé en janvier à se décanter.
Donc c'était de la faute de Colomoigny.
J'avais oublié Colomoigny.
C'était une petite balle perdue gratuite.
C'est un raccourci. Bruno, trois mots pour terminer.
7 mois dans une saison, c'est énorme, ouais, c'est long. On a l'impression que c'est la saison passée ce qui s'est passé. Et c'était pas les mêmes équipes, ni Arsenal, ni PSG.
Et notamment Doué qu'on a vu prendre une dimension bien plus importante. Voilà pour ce qui est donc de cette rencontre. La retransmission du match commencera tout à l'heure aux alentours de 21h. Sofiane Amazian et Patrick Juillard vous attendront dans le studio avec Cédric De Oliveira en direct de Londres et nous serons en direct pour le débrief. Juste avant, eh bien, un petit peu de musique du créole Kijan avec les frères Timal.
Gagade qui j'en, moi j'a réfléchi qui j'en, moi j'a calculé qui j'en, pour moi pe sorti à la misère là. Moi même j'a gardé qui j'en, moi j'a réfléchi qui j'en, moi j'a calculé qui j'en, pour moi pe sorti à la misère là. Qui j'en prend gâteau, prend gâteau, prend gâteau à tout. Qui j'en prend gâteau, prend gâteau, prend gâteau à tout. Qui j'en prend gâteau, prend gâteau, prend gâteau à tout. Qui j'en prend gâteau, prend gâteau, prend gâteau à tout. Même commandé qui j'en, en j'a calculé qui j'en, en j'a réfléchi qui j'en, pour moi pe sorti à la misère là. Moi même j'a mandé qui j'en, en j'a calculé qui j'en, moi j'a réfléchi qui j'en, pour moi pe sorti à la misère là.
Kijan, des frères Timal, retrouvé sur la playlist de RFI.
Una serie di finte, il tocco per Pellegrini, il raso terra, deviato in qualche modo per arrivare sulle.
Et encore une fois la climatisation à Meazza, mais qu'est-ce qui se passe à l'Inter? 1-0 pour la Roma, que l'on n'arrête plus.
Tra Coppa Italia et campionato, finisce qui, quindi la partita.
L'Inter, troisième défaite en une semaine, troisième défaite sans marquer contre Bologne, contre le Milan. Et ce soir contre la Roma, la Serie A est plus folle que jamais, plus vivante que jamais.
Alors une défaite à domicile face à l'AS Roma et l'Inter Milan vient d'enregistrer sa troisième défaite en une semaine, perdant la place de leader de cette Serie A. À la veille de se présenter en Catalogne, évidemment, ça peut inquiéter face au FC Barcelone qui, lui, a remporté, on le sait dans quelles circonstances, la Coupe du Roi. Les interistes arrivent, en tout cas peut-être avec moins de certitude, mais écoutons l'un des joueurs de cette équipe, Matteo Darmian, confiant bien sûr.
On est arrivé à un moment de la saison où on joue énormément. Nous ne devons rien lâcher malgré les échecs et continuer à jouer notre football. Il y a encore des matchs à disputer. On sait que ça va être difficile, mais on doit rester unis, unis en tant qu'équipe et aller de l'avant. Trois défaites, c'est ennuyeux. Le prochain match contre Barcelone sera passionnant, très compliqué, mais on va faire notre maximum pour revenir avec un bon résultat.
Ne pas perdre de vue donc l'objectif, évidemment, mais surtout, Saïd, rester fort, cette défense absolument incroyable, la meilleure de la Ligue des Champions. Je crois que c'est 3 buts à encaisser, si je ne me trompe pas. C'était 1 but avant l'avant-dernière session de match. Et surtout, résister aux assauts de Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, sans Benjamin Pavard.
Sans Benjamin Pavard, ça va être difficile parce qu'il s'était vraiment inscrit comme un taulier dans cette défense à 3, mais L'Inter Milan a de la ressource, voilà, Bastoni, De Vrij, il y a des joueurs qui vont pouvoir aussi faire le boulot. Yann Sommer, qu'on cite pas souvent assez à mon goût, qui est vraiment un excellent gardien. Pour revenir sur cette série de défaites de l'Inter, moi je ne suis pas spécialement inquiet quand on voit par exemple contre Bologne.
Peut-être inquiet pour le championnat, parce qu'on a plein
pour le championnat, oui, mais pour la Ligue des Champions, je ne suis pas... Non, mais
de gestion, là, c'est
quand
pas
on regarde par exemple la configuration contre...
la Coupe d'Italie, ils voulaient faire le triplé à l'Inter. Ils étaient focalisés sur
ça va être difficile
tout
de faire
la coupe. Bah, le championnat, ils sont pas bien du tout.
Là, ils sont
pas bien du tout.
Ils ont perdu la
Et Ligue des Champions, tu arrives avec moins de certitude. Même si c'est un épouvantail, et une incertitude sur Thuram. Et en plus, Marcus Thuram est incertain.
Mais il est dans le groupe là déjà. Donc,
il est dans le groupe. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Il sera pas à 100%.
Parce que c'est vrai que Lautaro Martinez, accompagné de Correa, c'est pas comme quand il a accompagné.
Ils n'ont pas d'alternative à Marcus Thuram. Ils n'ont pas un joueur qui prend la profondeur et qui épaule Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez, il joue tous les matchs. En fait, l'Inter là. J'avais un confrère italien ce matin qui m'en parlait. Ils me disent ils sont sur les rotules, en fait. Ils sont épuisés. Et ils arrivent au bout de la saison et ils n'ont peut-être pas l'effectif pour aller au bout sur toutes les compétitions. Ils ont voulu jouer les trois compétitions pour les remporter, pour faire un triple historique. Et notamment, Mourinho l'avait dit, par rapport à ce qu'il avait fait en 2010 avec l'Inter. Mais voilà, ils arrivent face au Barcelone, c'est Barcelone qui est costaud. Ouais.
Le Barça aussi, 120 minutes dans les jambes parce que le Real les a poussés en prolongation, donc ils ne vont pas être spécialement frais non plus. Mais pour moi, cette équipe de l'Inter est peut-être, de cette Ligue des Champions, l'équipe la plus vicieuse, la plus roublarde. Et surtout, en défense, c'est là où Sir Alex Ferguson, que je vais citer, avait dit « Avec une bonne attaque, on gagne des matchs, et avec une bonne défense, on gagne des titres ». Et je pense que cette équipe de l'Inter est la plus contraignante et la plus difficile à jouer. Donc, ce ne sera pas une partie de plaisir pour le FC Barcelone.
Et ça, c'était vrai avant la double confrontation face au Bayern. Face au Bayern, ils ont souffert défensivement, comme rarement on les a vus cette saison.
Ils ont encaissé des buts.
Et ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Notamment, on a souvenu l'occasion au match aller d'Harry Kane.
Beaucoup de quarts de finale se sont disputés effectivement sur le fil.
Bon, après, on arrive sur des équipes qui sont aussi au niveau de ces demi-finales ou quarts de finale. Là, tu es obligé d'avoir des...
L'Inter, on en avait fait presque un favori pendant un moment, Erika.
Je me dis vraiment, dans cet affrontement contre Barcelone, alors, c'est sûr que Pavard avait dedans, c'était mieux. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une vraie opposition et que c'est pas du tout fait pour Barcelone.
Le Barça a montré quelques signes de fébrilité, on s'en souvient, à Dortmund l'autre fois.
Ils ont pris des buts.
Ils avaient 4 buts d'avance et
on rappelle que là, Lewandowski n'est pas là, donc ça change des choses aussi énormément devant. Donc franchement, ce n'est pas encore fait pour le Barça. Et l'Inter, c'est, je trouve, peut-être l'équipe la plus équilibrée des 4 équipes qui sont là. Donc franchement, ça va être dur.
Oui. Mais l'Inter visait le titre, c'est pas non plus perdu encore, Bruno.
Non, mais Naples,
mais c'est vrai qu'avec
Naples, ils n'ont que ça à jouer.
Antonio
Conte, c'est un spécialiste de reprendre les clubs et dès la première saison de remporter le titre. Il avait fait avec Chelsea. Et là, Naples, ils sont en tête. Ils vont pas lâcher cette occasion énorme.
Mais Simone Inzaghi, quand même, il a l'expérience de cette finale disputée il y a 2 ans. Perdue, mais disputée il y a 2 ans aussi, Saïd.
Oui, il y a l'expérience. Et je pense qu'à un moment donné, l'Inter ne pouvait pas jouer sur tous les tableaux. Finalement, est-ce que c'est si problématique de sortir en coupe? Mais cette Ligue des Champions semble quand même être une priorité, sans négliger spécialement le championnat. Mais jouer l'Inter sur 2 matchs, c'est pas jouer l'Inter sur une seule rencontre. Je pense que sur 2 matchs, une double confrontation, et je vais rejoindre Eric, c'est l'équipe la plus difficile à jouer parce que c'est une équipe qui court beaucoup, c'est une équipe qui est très solidaire et donc c'est une équipe qui va beaucoup fatiguer. Et on l'a souligné aussi, c'est que le Barça, défensivement, il y a des errances. Et donc si on récupère un peu le duo Lautaro Martinez et Marcus Thuram et que l'Inter a le bonheur pour eux d'ouvrir la marque, je pense que ça va être très très difficile d'aller les chercher sur le plan défensif, même sans Benjamin Pavard.
En tout cas, ça sera la deuxième demi-finale, mais ça sera demain. Nous en reparlerons de toute façon dans la deuxième partie de Radio Foot International. Les amis, on se retrouve donc après la diffusion du match Arsenal-Paris Saint-Germain sur l'antenne de RFI ce soir à partir de 21h ou de 20h55 plus précisément, avec Sofiane Amazian et avec aussi Cédric Des Oliveira en direct et puis Patrick Julliard en studio. À tout à l'heure et merci.